Dites-moi tout.
Bonjour Laurent, ça va bien?
Bonjour, merci.
Merci.
Très heureux de vous avoir ici.
Bien, c'est nous qui êtes heureux de vous avoir ici. Vous prenez du bon temps à Montréal? Ça se passe bien? Vous appréciez ici?
Écoutez, c'est toujours une course qu'on cite dans, quand les gens nous demandent nos courses préférées. Et on répond toujours Montréal dans le top 3. Pas juste à cause du circuit, mais aussi parce que c'est vraiment un des endroits où, au-delà de l'attachement francophone, où la ville vit pour la course pendant la semaine du Grand Prix. Et on va dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits incroyables. Il y a peu d'endroits qui vivent autant pour la course pendant la semaine du Grand Prix. Donc c'est déjà une ville fantastique. Elle devient encore plus incroyable pendant ce week-end sportif.
J'ai posé la question à des pilotes français hier, à savoir, parce que malheureusement, il n'y a plus de course en France depuis 2022. Est-ce qu'on se sent un peu comme une course home away from home? Donc, on est un petit peu à la maison sans l'être nécessairement pour les Français qui voyagent avec vous?
On a un peu cet effet-là ici, exactement. Donc, on a perdu le Grand Prix de France. Donc, du coup, on a l'effet, cet effet-là un peu à Montréal, un peu à Monaco.
Ouais.
Où on a l'impression que c'est un peu le Grand Prix, le Grand Prix maison. Donc, oui, ça nous donne cet effet familial.
Ça va bien présentement pour votre écurie, pour Racing Bulls. Vous avez un jeune pilote français également, Isaac Hadjar, qui est arrivé en Formule 1, a connu un début difficile en Australie, on se rappelle malheureusement, mais depuis ce temps-là, ça va très très bien. C'est quoi pour vous de développer un jeune talent comme lui et de le voir aller de si bien faire chez vous cette saison?
Alors d'abord, je pense que c'est important de rappeler que Isaac a surpris tout le monde. Hein? Donc, sans doute à part Helmut Marko qui devait s'y attendre. mais sinon, nous, on avait, comme tout le monde, on avait de grosses attentes par rapport à tout le parcours qu'il avait eu en F3, en F2. Il avait fait peu de roulage en Formule 1, très peu de roulage. C'est à son honneur, vu les résultats qu'il a fait. Il avait fait extrêmement peu de roulage. Mais on s'attendait à un très bon niveau, parce que le niveau montré en F3 et F2 était très très solide. On ne s'attendait pas à ce que le point de départ soit aussi élevé. Et donc ça, il faut lui reconnaître le crédit à lui, aussi bien dans la voiture, pour la vitesse naturelle qu'il a montrée, qu'en dehors de la voiture, où il a commencé dès les premiers jours de janvier. D'ailleurs, il est venu s'installer à Faenza. Le 3 ou 4 janvier, il avait déjà trouvé un appartement à Faenza, il était installé avec nous. Et donc, en dehors de la voiture, dans l'attitude qu'il a eue de vouloir apprendre, de maturité pour un garçon de 20 ans, d'humilité, etc., etc. Après, vous avez raison, on croit profondément au développement des pilotes. Donc, au-delà du point de départ qui est exceptionnel dans son cas,
ouais.
On croit profondément au fait que, de toute façon, les très bons pilotes se développent. Mais pas juste en feedback technique ou en maturité. Non, 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 ils vont plus vite. On parle des très bons, là. Hein. Donc, les très bons, ils vont faire des pas en avant toutes les 4 courses, toutes les 6 courses, toutes les années. On l'a vu avec Yuki après aussi, après 4 ans, non on était arrivé à un niveau de performance et boum, on a réussi à faire un pas en avant 2024, un autre pas en avant pendant l'hiver 2024-2025. Donc, si on croit à ça, ça veut dire que notre principale mission, c'est de créer l'environnement autour des pilotes pour leur permettre de faire ces pas en avant qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes le plus fréquemment possible et le plus rapidement possible.
De voir ce développement-là, parce qu'on parle de Isaac, mais il y a Liam également qui est dans l'écurie, mais de voir ce pas en avant-là que Racing Bulls fait présentement. Et c'est une saison qui est âprement disputée dans les écuries de ce groupe-là. De plus en plus, d'ici la fin de la saison, ce sera difficile pour une et l'autre des écuries d'aller chercher le maximum de points, mais on doit également regarder vers 2026 et le développement de la voiture en 2026. Comment on balance ce défi-là un peu d'aller chercher un maximum de points cette année, mais aussi en tournant l'équipe vers les prochaines réglementations?
Alors, c'est une question assez complexe. D'abord, pour nous, c'est c'est le projet a été remis à zéro il y a un an et demi. Donc, on a eu une renaissance comme Visa Cash App Racing Bulls. Et donc, ces dernières 15 mois, 16 mois, 17 mois, nous avons changé énormément de choses dans l'équipe pour essayer d'aller atteindre les objectifs que nous ont fixés nos patrons, nos actionnaires, par rapport au futur qu'ils voient pour l'équipe. Non, donc, on nous a dit il faut construire une équipe qui soit crédible pour se battre tout en haut du midfield. Et ça veut dire construire une équipe qui soit capable de battre un, deux ou trois constructeurs d'automobiles.
Ouais.
Donc nous, on est en train de construire ce parcours-là. Dans ce contexte-là, un an et demi, ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est déjà une réponse importante pour se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction. On a la chance d'avoir, avec Red Bull, avec nos patrons, avec cette société incroyable, on nous laisse une liberté exceptionnelle d'agir. Ça veut dire qu'on est capable d'aller très vite, on change très vite, on se trompe beaucoup. Donc on tombe, on se relève, on corrige, on continue à aller vite. Donc on a eu la chance de changer énormément de choses pendant un an et demi. Et la réponse de cette deuxième saison, pour nous, elle est importante pour voir si la direction dans laquelle on est en train d'essayer de faire évoluer l'équipe avec l'aide de tous nos employés est la bonne ou pas. Donc dans ce contexte-là, que nos équipes aient été capables de faire une voiture compétitive à un moment donné où le niveau de compétition est plus élevé que jamais,
ouais,
contre ces géants, contre plusieurs constructeurs automobiles que nous devons battre tous les week-ends, c'est déjà une première réponse importante pour nous, pour dire ok, on continue à courir, on va continuer à se tromper, on va continuer à tomber, on va continuer à se relever. Et donc ça, c'est une réponse importante. Donc pour nous, cette saison 2025, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire, ben non, 2025, on ne regarde pas, on regarde 2026, nous, on ne peut pas dire ça.
Ouais.
Parce que pour tous les changements dont on est en train de mettre en action, on a besoin de ce point de feedback. Donc oui, on est dans ce mix, on est crédible, j'espère, dans ce combat pour le Tour de Midfield. Et oui, bien sûr, maintenant, il faut qu'on balance l'investissement par rapport à 2026. Je pense qu'on est plus ou moins tous dans le même bateau. Évidemment, il y a certaines équipes qui ont fait des choix stratégiques déjà plus poussés sur 2026, certains moins. Vous savez, on est dans une compétition où tous les week-ends, encore à Barcelone il y a une semaine, hein, tous les week-ends, nous, on sort de Q1 pour moins d'un dixième. Et on arrive en Q3, ça se passe bien, pour 1, 2, 3 centièmes.
C'est très serré.
Ça vous dit tout, là. La Formule 1 n'a jamais été à ce niveau de compétitivité sur un groupe de 12 voitures comme ça. Donc tous les week-ends, ça se joue entre moins d'un dixième. Le week-end dernier, Isaac, il était à 3 ou 4 centièmes de se faire sortir de la Q1. Et après ça, il s'est qualifié en Q3 pour quelques centièmes. Et il a fait la course que vous avez vue, où il était clairement 5e force, 5e équipe, en tant que pace à Barcelone, c'est de façon certaine, avant que le safety car ne sorte. Donc vous voyez, donc ça c'est la difficulté. Donc du coup, oui, on est tous en train de regarder 2026. On ne peut pas non plus se permettre de laisser sur la table un dixième ou un dixième et demi, parce que ça veut dire que là où on est P6 aujourd'hui, on va se retrouver P9 dans...
Donc on prend les points dans un week-end donné, mais on se dit, OK, on se retrousse les manches et on doit aller en chercher aussi le week-end prochain.
Donc chaque week-end, c'est vraiment le reset. On sait qu'il va falloir se battre avec nos dents pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir être du bon côté du dixième en Q1 et du bon côté du centième pour aller en Q3. Et oui, on est tous en train de passer la priorité vers 2026, c'est vrai. Donc on passe déjà la majorité de notre temps sur 2026. Certains de nos compétiteurs ont sans doute même fait ce changement sans doute déjà avant nous. Et donc, c'est une balance qui est un peu philosophique entre les deux.
Je vous donne beaucoup de crédit parce que vous parlez de cette dernière année et demie-là, mais à toute l'équipe également qui travaille très, très fort et en Italie et en Angleterre. Des deux, vous l'aviez dit vous-même, là, c'est une équipe sans domicile fixe,
exactement,
si on veut, ce qui est une force
exactement,
pour vous.
Exactement, tout à fait.
Mais également, vous avez tellement fait des belles performances depuis le début de la saison que Mais plusieurs médias, plusieurs experts qui ont suggéré, qui ont posé la question à la grande écurie, si je peux me permettre ce nom-là, Red Bull. Est-ce qu'on veut s'inspirer maintenant de ce qu'on fait chez Visa Cash App Racing Bulls avec une voiture qui est très, très stable et qui est rapide également pour les pilotes? Est-ce que pour vous, c'est un compliment qu'on entende ça un peu partout sur la planète F1?
Écoutez, c'est très facile de sous-estimer le pas en avant qu'il y a à faire entre le milieu de plateau, même le haut du milieu de plateau, et aller se battre pour la victoire et pour le titre. Et donc, nous ne faisons pas l'erreur de sous-estimer, donc merci pour les compliments. La réalité, c'est que aller se battre pour aller extraire les derniers dixièmes de la voiture pour aller chercher un championnat du monde, comme le font notre équipe sœur contre ses compétiteurs, c'est un pas en avant gigantesque. Et donc, et pour faire ce pas en avant, on prend des risques, on se trouve devant d'autres difficultés. Et donc, on a un grand respect pour le combat dans lequel ils sont. C'est bien qu'on soit le plus proche possible de ce groupe des quatre top teams. Mais on est conscient de l'énormité de la tâche qui est devant nous. De nouveau, c'est une très bonne indication que les équipes de Finance Hamilton Kings aient été capables de concevoir une voiture saine et rapide. On est absolument conscient de l'énormité de la tâche qui est devant nous pour être capable de développer la voiture, pour être capable de se projeter dans une réglementation 2026. Et donc notre concentration à nous, c'est vraiment sur continuer à développer l'infrastructure, continuer à développer les équipes, parce que c'est très facile de nouveau de sous-estimer l'écart qu'il y a entre ce qui doit être fait pour le milieu de tableau et ce qui doit être fait pour les top 10.
C'est vraiment un plaisir. J'avais une discussion avec Fabiana sur de Minardi au début des années 2000 à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous voir évoluer, de voir Isaac et Liam également en piste. Et de vous suivre également, Laurent. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui.
Merci.
C'est fort apprécié. Ça a été un fort bel entretien également. Je ne vous souhaite pas de chance, mais le meilleur des succès à Montréal est d'ici la fin de la saison.
C'est très gentil. C'est très gentil à vous. On a l'habitude de dire ici que la chance est un paramètre nécessaire, mais pas suffisant.
Alors, bon succès et bonne chance.
On l'apprend, mais ça ne suffit pas. Donc, il faudra aussi autre chose.
On en a besoin un peu. Alors, je vous souhaite les deux dans ce cas-là.
Merci beaucoup.
Merci, Laurent. Merci.